Le rouge et le noir, chapitre 57. Les plus belles places de l'église. Des services, des talents, du mérite, bah, soyez d'une coterie. Télémaque. Ainsi, l'idée d'évêché était pour la première fois mêlée avec celle de Julien dans la tête d'une femme qui, tôt ou tard, devait distribuer les plus belles places de l'église de France. Cet avantage n'eût guère touché Julien. En cet instant, sa pensée ne s'élevait à rien d'étranger à son malheur actuel. Tout le redoublait. Par exemple, la vue de sa chambre lui était devenue insupportable. Le soir, quand il rentrait avec sa bougie, chaque meuble, chaque petit ornement lui semblait prendre une voix pour lui annoncer aigrement quelques nouveaux détails de son malheur. « Ce jour-là, j'ai un travail forcé », se dit-il en rentrant et avec une vivacité que depuis longtemps il ne connaissait plus. « Espérons que la seconde lettre sera aussi ennuyeuse que la première. » Elle l'était davantage. Ce qu'il copiait lui semblait si absurde qu'il en vint à transcrire, ligne par ligne, sans songer au sens. « C'est encore plus emphatique, se disait-il, que les pièces officielles du traité de Münster, que mon professeur de diplomatie me faisait copier à Londres. » Il se souvint seulement alors des lettres de Madame de Fervaques, dont il avait oublié de rendre les originaux au grave espagnol Don Diego Bustos. Il les chercha. Elles étaient réellement presque aussi amphigouriques que celles du jeune seigneur russe. Le vague était complet. Cela voulait tout dire et ne rien dire. « C'est la harpe éolienne du style, » pensa Julien. Au milieu des plus hautes pensées sur le néant, sur la mort, sur l'infini, etc., je ne vois de réel qu'une peur abominable du ridicule. Le monologue que nous venons d'abréger fut répété pendant 15 jours de suite. S'endormir en transcrivant une sorte de commentaire de l'Apocalypse, le lendemain aller porter une lettre d'un air mélancolique, remettre le cheval à l'écurie avec l'espérance d'apercevoir la robe de Mathilde, travailler, le soir paraître à l'opéra quand Madame de Fervaques ne venait pas à l'hôtel de la Mole, tels étaient les événements monotones de la vie de Julien. Elle avait plus d'intérêt quand Madame de Fervaques venait chez la marquise. Alors, il pouvait entrevoir les yeux de Mathilde sous une aile du chapeau de la maréchale, et il était éloquent. Ses phrases, pittoresques et sentimentales, commençaient à prendre une tournure plus frappante, à la fois et plus élégante. Il sentait bien que ce qu'il disait était absurde aux yeux de Mathilde, mais il voulait la frapper par l'élégance de la diction. « Plus ce que je dis est faux, plus je dois lui plaire, » pensait Julien. Et alors, avec une hardiesse abominable, il exagérait certains aspects de la nature. Il s'aperçut bien vite que pour ne pas paraître vulgaire aux yeux de la maréchale, il fallait surtout se bien garder des idées simples et raisonnables. Il continuait ainsi, ou abrégeait ses amplifications, suivant qu'il voyait le succès ou l'indifférence dans les yeux des deux grandes dames auxquelles il fallait plaire. Au total, sa vie était moins affreuse que lorsque ses journées se passaient dans l'inaction. Mais, se disait-il un soir, me voici transcrivant la 15e de ces abominables dissertations. Les 14 premières ont été fidèlement remises aux Suisses de la maréchale. Je vais avoir l'honneur de remplir toutes les cases de son bureau. Et cependant, elle me traite exactement comme si je n'écrivais pas. Quelle peut être la fin de tout ceci? Ma constance l'ennuierait-elle autant que moi? Il faut convenir que ce russe, ami de Korasov, et amoureux de la belle Quécresse de Richemont, fut en son temps un homme terrible. On n'est pas plus assommant. Comme tous les êtres médiocres que le hasard met en présence des manœuvres d'un grand général, Julien ne comprenait rien à l'attaque exécutée par le jeune russe sur le cœur de la belle anglaise. Les 40 premières lettres n'étaient destinées qu'à se faire pardonner la hardiesse d'écrire. Il fallait faire contracter à cette douce personne, qui peut-être s'ennuyait infiniment, l'habitude de recevoir des lettres, peut-être un peu moins insipides que sa vie de tous les jours. Un matin, on remit une lettre à Julien. Il reconnut les armes de Madame de Fervaques et brisa le cachet avec un empressement qui lui eût semblé bien impossible quelques jours auparavant. Ce n'était qu'une invitation à dîner. Il courut aux instructions du prince Korasov. Malheureusement, le jeune russe avait voulu être léger comme Dora, là où il eût fallu être simple et intelligible. Julien ne put deviner la position morale qu'il devait occuper au dîner de la maréchale. Le salon était de la plus haute magnificence, doré comme la galerie de Diane aux Tuileries, avec des tableaux à l'huile au lambris. Il y avait des taches claires dans ces tableaux. Julien apprit plus tard que les sujets avaient semblé peu décents à la maîtresse du logis, qui avait fait corriger les tableaux. « Siècle moral, » pensa-t-il. Dans ce salon, il remarqua trois des personnages qui avaient assisté à la rédaction de la note secrète. L'un d'eux, Monseigneur l'évêque de Hun, oncle de la maréchale, avait la feuille des bénéfices et, disait-on, ne savait rien refuser à sa nièce. « Quel pas immense j'ai fait !» se dit Julien en souriant avec mélancolie. « Et combien il m'est indifférent !» Me voici dînant avec le fameux évêque de... Le dîner fut médiocre et la conversation impatientante. C'est la table d'un mauvais livre, pensait Julien. Tous les plus grands sujets des pensées des hommes y sont fièrement abordés. Écoute-t-on 3 minutes, on se demande ce qu'il emporte, de l'emphase du parleur ou de son abominable ignorance. Le lecteur a sans doute oublié ce petit homme de lettres, nommé Tambeau, neveu de l'académicien et futur professeur, qui, par ses basses calomnies, semblait chargé d'empoisonner le salon de l'hôtel de la Mole. Ce fut par ce petit homme que Julien eut la première idée qu'il se pourrait bien que Madame de Fervaques, tout en ne répondant pas à ses lettres, vit avec indulgence le sentiment qui les dictait. L'âme noire de Monsieur Tambeau était déchiré en pensant au succès de Julien. Mais comme d'un autre côté, un homme de mérite, pas plus qu'un sot ne peut être en 2 endroits à la fois, si Sorel devient l'amant de la sublime maréchale, se disait le futur professeur, elle le placera dans l'église de quelque manière avantageuse, et j'en serai délivré à l'hôtel de la Mole. Monsieur l'abbé Pirard adressa aussi à Julien de longs sermons sur ses succès à l'hôtel de Fervaques. Il y avait jalousie de secte entre l'austère janséniste et le salon jésuitique, régénérateur et monarchique de la vertueuse maréchale. Chapitre 58. Manon Lescaut. Or, une fois qu'il fut bien convaincu de la sottise et ânerie du prieur, il réussissait assez ordinairement en appelant noir ce qui était blanc et blanc ce qui était noir. Lichtenberg. Les instructions russes prescrivaient impérieusement de ne jamais contredire de vive voix la personne à qui on écrivait. On ne devait s'écarter, sous aucun prétexte, du rôle de l'admiration la plus extatique. Les lettres partaient toujours de cette supposition. Un soir, à l'opéra, dans la loge de Madame de Fervaques, Julien portait au nu le ballet de Manon Lescaut. Sa seule raison pour parler ainsi, c'est qu'il le trouvait insignifiant. La maréchale dit que ce ballet était bien inférieur au roman de l'abbé Prévost. « Comment ? » pensa Julien, étonné et amusé. Une personne d'une si haute vertu vantait un roman. Madame de Fervaques faisait profession 2 ou 3 fois la semaine du mépris le plus complet pour les écrivains, qui, au moyen de ses plats ouvrages, cherchent à corrompre une jeunesse qui n'est, hélas, que trop disposée aux erreurs des sens. Dans ce genre immoral et dangereux, Manon Lescaut, continua la maréchale, occupe, dit-on, un des premiers rangs. Les faiblesses et les angoisses méritées d'un cœur bien criminel y sont, dit-on, dépeintes avec une vérité qui a de la profondeur. Ce qui n'empêche pas votre Bonaparte de prononcer à Sainte-Hélène que c'est un roman écrit pour des laquais. Ce mot rendit toute son activité à l'âme de Julien. On a voulu me perdre auprès de la maréchale. On lui a dit mon enthousiasme pour Napoléon. Ce fait l'a assez piqué pour qu'elle cède à la tentation de me le faire sentir. Cette découverte l'amusa toute la soirée et le rendit amusant. Comme il prenait congé de la maréchale sous le vestibule de l'opéra, « Souvenez-vous, monsieur, lui dit-elle, qu'il ne faut pas aimer Bonaparte quand on m'aime. On peut tout au plus l'accepter comme une nécessité imposée par la Providence. Du reste, cet homme n'avait pas l'âme assez flexible pour sentir les chefs-d'œuvre des arts. « Quand on m'aime ?» se répétait Julien. « Cela ne veut rien dire, ou veut tout dire. Voilà des secrets de langage qui manquent à nos pauvres provinciaux. Et il songea beaucoup à Madame de Rênal, en copiant une lettre immense destinée à la maréchale. « Comment se fait-il ? » lui dit-elle le lendemain d'un air d'indifférence qu'il trouva mal joué. « Que vous me parliez de Londres et de Richemont dans une lettre que vous avez écrite hier soir, à ce qu'il me semble, au sortir de l'opéra. » Julien fut très embarrassé. Il avait copié ligne par ligne, sans songer à ce qu'il écrivait, et apparemment avait oublié de substituer aux mots « Londres » et « Richemont » qui se trouvaient dans l'original, ceux de « Paris » et « Saint-Cloud ». Il commença deux ou trois phrases, mais sans possibilité de les achever. Il se sentait sur le point de céder au rire fou. Enfin, en cherchant ses mots, il parvint à cette idée. Exalté par la discussion des plus sublimes, des plus grands intérêts de l'âme humaine, la mienne, en vous écrivant, a pu avoir une distraction. « Je produis une impression, se dit-il, donc je puis m'épargner l'ennui du reste de la soirée. » Il sortit en courant de l'hôtel de Fervaques. Le soir, en revoyant l'original de la lettre par lui copiée la veille, il arriva bien vite à l'endroit fatal où le jeune russe parlait de Londres et de Richemont. Julien fut bien étonné de trouver cette lettre presque tendre. C'était le contraste de l'apparente légèreté de ses propos avec la profondeur sublime et presque apocalyptique de ces lettres qu'il avait fait distinguer. La longueur des phrases plaisait surtout à la maréchale. Ce n'est pas là ce style sautillant mis à la mode par Voltaire, cet homme immoral. Quoique notre héros fît tout au monde pour bannir toute espèce de bon sens de sa conversation, elle avait encore une couleur anti-monarchique et impie qui n'échappait pas à Madame de Fervaques. Environnée de personnages éminemment moraux, mais qui souvent n'avaient pas une idée par soirée, cette dame était profondément frappée de tout ce qui ressemblait à une nouveauté, mais en même temps, elle croyait se devoir à elle-même d'en être offensée. Elle appelait ce défaut « garder l'empreinte de la légèreté du siècle ». Mais de tels salons ne sont bons à voir que quand on sollicite. Tout l'ennui de cette vie sans intérêt que menait Julien est sans doute partagé par le lecteur. Ce sont là les landes de notre voyage. Pendant tout le temps usurpé dans la vie de Julien par l'épisode Fervaques, Mademoiselle de la Mole avait besoin de prendre sur elle pour ne pas songer à lui. Son âme était en proie à de violents combats. Quelquefois, elle se flattait de mépriser ce jeune homme si triste, mais malgré elle, sa conversation la captivait. Ce qui l'étonnait surtout, c'était sa fausseté parfaite. Il ne disait pas un mot à la maréchale qui ne fût un mensonge, ou du moins un déguisement abominable de sa façon de penser, que Mathilde connaissait si parfaitement sur presque tous les sujets. Ce machiavélisme la frappait. Quelle profondeur, se disait-elle, quelle différence avec les nigauds emphatiques ou les fripons communs, tels que Monsieur Tambeau, qui tiennent le même langage. Toutefois, Julien avait des journées affreuses. C'était pour accomplir le plus pénible des devoirs qu'il paraissait chaque jour dans le salon de la maréchale. Ses efforts pour jouer un rôle achevaient d'ôter toute force à son âme. Souvent, la nuit, en traversant la cour immense de l'hôtel de Fervaques, ce n'était qu'à force de caractère et de raisonnement qu'il parvenait à se maintenir un peu au-dessus du désespoir. « J'ai vaincu le désespoir au séminaire, » se disait-il. « Pourtant, quelle affreuse perspective j'avais alors ! Je faisais ou je manquais ma fortune dans l'un comme dans l'autre cas. Je me voyais obligé de passer toute ma vie en société intime avec ce qu'il y a sous le ciel de plus méprisable et de plus dégoûtant. Le printemps suivant, 11 petits mois après seulement, j'étais le plus heureux peut-être des jeunes gens de mon âge. » Mais bien souvent, tous ces beaux raisonnements étaient sans effet contre l'affreuse réalité. Chaque jour, il voyait Mathilde au déjeuner et à dîner. D'après les lettres nombreuses que lui dictait M. de la Mole, il la savait à la veille d'épouser M. de Croisenois. Déjà, cet aimable jeune homme paraissait deux fois par jour à l'hôtel de la Mole. L'œil jaloux d'un amant délaissé ne perdait pas une seule de ses démarches. Quand il avait cru voir que Mademoiselle de la Mole traitait bien son prétendu, en rentrant chez lui, Julien ne pouvait s'empêcher de regarder ses pistolets avec amour. « Ah, que je serais plus sage, se disait-il, de démarquer mon linge et d'aller dans quelque forêt solitaire, à 20 lieues de Paris, finir cette exécrable vie. Inconnue dans le pays, ma mort serait cachée pendant 15 jours. Et qui songerait à moi après 15 jours ? » Ce raisonnement était fort sage. Mais le lendemain, le bras de Mathilde, entrevu entre la manche de sa robe et son gant, suffisait pour plonger notre jeune philosophe dans des souvenirs cruels, et qui cependant l'attachaient à la vie. « Eh bien, se disait-il alors, je suivrai jusqu'au bout cette politique russe. Comment cela finira-t-il ? » À l'égard de la maréchale, certes, après avoir transcrit ces 53 lettres, je n'en écrirai pas d'autres. À l'égard de Mathilde, ces 6 semaines de comédie si pénibles, ou ne changeront rien à sa colère, ou m'obtiendront un instant de réconciliation. Grand Dieu, j'en mourrai de bonheur! Et il ne pouvait achever sa pensée. Quand, après une longue rêverie, il parvenait à reprendre son raisonnement. « Donc, se disait-il, j'obtiendrai un jour de bonheur. Après quoi, recommencerai ses rigueurs fondées, hélas, sur le peu de pouvoir que j'ai de lui plaire, et il ne me resterait plus aucune ressource. Je serai ruiné, perdu à jamais. Quelle garantie peut-elle me donner avec son caractère? Hélas, mon peu de mérite répond à tout. Je manquerai d'élégance dans mes manières, ma façon de parler sera lourde et monotone. Grand Dieu, pourquoi suis-je moi ? » Chapitre 59. L'ennui. Se sacrifier à ses passions passe, mais à des passions qu'on n'a pas, oh, triste 19e siècle. Girodet. Après avoir lu sans plaisir d'abord les longues lettres de Julien, Madame de Fervaques commençait à en être occupée. Mais une chose la désolait. Quel dommage que M. Sorel ne soit pas décidément prêtre. On pourrait l'admettre à une sorte d'intimité. Avec cette croix et cet habit presque bourgeois, on est exposé à des questions cruelles. Et que répondre ? Elle n'achevait pas sa pensée. Quelque ami maligne peut supposer et même répandre que c'est un petit cousin subalterne, parent de mon père, quelque marchand décoré par la garde nationale. Jusqu'au moment où elle avait vu Julien, le plus grand plaisir de Madame de Fervaques avait été d'écrire le mot « maréchal » à côté de son nom. Ensuite, une vanité de parvenu, maladive et qui s'offensait de tout, combattit un commencement d'intérêt. « Il me serait si facile, » se disait la maréchale, « d'en faire un grand vicaire dans quelque diocèse voisin de Paris. Mais M. Sorel, tout court, et encore petit secrétaire de M. de la Mole, c'est désolant. » Pour la première fois, cette âme qui craignait tout était émue d'un intérêt étranger à ses prétentions de rang et de supériorité sociale. Son vieux portier remarqua que lorsqu'il apportait une lettre de ce beau jeune homme, qui avait l'air si triste, il était sûr de voir disparaître l'air distrait et mécontent que la maréchale avait toujours soin de prendre à l'arrivée d'un de ses gens. L'ennui d'une façon de vivre tout ambitieuse d'effet sur le public, sans qu'il y eût au fond du cœur jouissance réelle pour ce genre de succès, était devenu si intolérable depuis qu'on pensait à Julien, que, pour que les femmes de chambre ne fussent pas maltraitées de toute une journée, il suffisait que pendant la soirée de la veille, on eût passé une heure avec ce jeune homme singulier. Son crédit naissant résista à des lettres anonymes, fort bien faites. En vain le petit tambeau fournit à messieurs de Luz, de Croisenois, de Quéluz, deux ou trois calomnies fort adroites, et que ces messieurs prirent plaisir à répandre, sans trop se rendre compte de la vérité des accusations. La maréchale, dont l'esprit n'était pas fait pour résister à ces moyens vulgaires, racontait ses doutes à Mathilde, et toujours était consolée. Un jour, après avoir demandé trois fois s'il y avait des lettres, Madame de Fervaques se décida subitement à répondre à Julien. Ce fut une victoire de l'ennui. À la seconde lettre, la maréchale fut presque arrêtée par l'inconvenance d'écrire, de sa main, une adresse aussi vulgaire, à M. Sorel, chez M. le marquis de la Mole. « Il faut, » dit-elle le soir à Julien d'un air fort sec, « que vous m'apportiez des enveloppes sur lesquelles il y aura votre adresse. » « Me voilà constitué amant valet de chambre, » pensa Julien. Et il s'inclina en prenant plaisir à se grimer comme Arsène, le vieux valet de chambre du marquis. Le soir même, il apporta des enveloppes, et le lendemain, de fort bonne heure, il eut une troisième lettre. Il en lut cinq ou six lignes au commencement et deux ou trois vers la fin. Elle avait quatre pages d'une petite écriture fort serrée. Peu à peu, on prit la douce habitude d'écrire presque tous les jours. Julien répondait par des copies fidèles des lettres russes. Et tel est l'avantage du style emphatique, Madame de Fervaques n'était point étonnée du peu de rapport des réponses avec ses lettres. Quelle n'eût pas été l'irritation de son orgueil si le petit tambeau, qui s'était constitué espion volontaire des démarches de Julien, eût pu lui apprendre que toutes ses lettres non décachetées était jeté au hasard dans le tiroir de Julien. Un matin, le portier lui apportait dans la bibliothèque une lettre de la maréchale. Mathilde rencontra cet homme, vit la lettre et l'adresse de l'écriture de Julien. Elle entra dans la bibliothèque comme le portier en sortait. La lettre était encore sur le bord de la table. Julien, fort occupé à écrire, ne l'avait pas placée dans son tiroir. « Voilà ce que je ne puis souffrir !» s'écria Mathilde en s'emparant de la lettre. « Vous m'oubliez tout à fait, moi qui suis votre épouse. Votre conduite est affreuse, monsieur !» À ces mots, son orgueil, étonné de l'effroyable inconvenance de sa démarche, la suffoqua. Elle fondit en larmes et bientôt parut à Julien hors d'état de respirer. Surpris, confondu, Julien ne distinguait pas bien tout ce que cette scène avait d'admirable et d'heureux pour lui. Il aida Mathilde à s'asseoir, elle s'abandonnait presque dans ses bras. Le premier instant où il s'aperçut de ce mouvement fut de joie extrême. Le second fut une pensée pour Korasoff. « Je puis tout perdre par un seul mot !» Ses bras se raidirent, tant l'effort imposé par la politique était pénible. « Je ne dois pas même me permettre de presser contre mon cœur ce corps souple et charmant, où elle me méprise et me maltraite. Quel affreux caractère !» Et en maudissant le caractère de Mathilde, il l'en aimait 100 fois plus. Il lui semblait avoir dans ses bras une reine. L'impassible froideur de Julien redoubla le malheur d'orgueil qui déchirait l'âme de Mademoiselle de la Mole. Elle était loin d'avoir le sang-froid nécessaire pour chercher à deviner dans ses yeux ce qu'il sentait pour elle en cet instant. Elle ne put se résoudre à le regarder. Elle tremblait de rencontrer l'expression du mépris. Assise sur le divan de la bibliothèque, immobile et la tête tournée du côté opposé à Julien, elle était en proie aux plus vives douleurs que l'orgueil et l'amour puissent faire éprouver à une âme humaine. Dans quelle atroce démarche elle venait de tomber ! Il m'était réservé, malheureuse que je suis, de voir repousser les avances les plus indécentes. Et repousser par qui ? Ajoutait l'orgueil fou de douleur. Repousser par un domestique de mon père. C'est ce que je ne souffrirai pas, dit-elle à haute voix. Et, se levant avec fureur, elle ouvrit le tiroir de la table de Julien, placé à 2 pas devant elle. Elle resta comme glacée d'horreur en y voyant 8 ou 10 lettres non ouvertes, semblables en tout à celles que le portier venait de monter. Sur toutes les adresses, elle reconnaissait l'écriture de Julien, plus ou moins contrefaite. « Ainsi ! » s'écria-t-elle hors d'elle-même. « Non seulement vous êtes bien avec elle, mais encore vous la méprisez. Vous, un homme de rien, méprisez la maréchale de Fervaques. Oh, pardon, mon ami, ajouta-t-elle en se jetant à ses genoux. Méprise-moi si tu veux, mais aime-moi. Je ne puis plus vivre privée de ton amour. Et elle tomba tout à fait évanouie. La voilà donc, cette orgueilleuse, à mes pieds, se dit Julien. Chapitre 60. Une loge aux bouffes. Au milieu de tous ces grands mouvements, Julien était plus étonné qu'heureux. Les injures de Mathilde lui montraient combien la politique russe était sage. Peu parler, peu agir, voilà mon unique moyen de salut. Il releva Mathilde et, sans mot dire, la replaça sur le divan. Peu à peu, les larmes la gagnèrent. Pour se donner une contenance, elle prit dans ses mains les lettres de Madame de Fervaques. Elle les décachetait lentement. Elle eut un mouvement nerveux bien marqué quand elle reconnut l'écriture de la maréchale. Elle tournait sans les lire les feuilles de ses lettres. La plupart avaient 6 pages. « Répondez-moi, du moins !» dit enfin Mathilde, du ton de voix le plus suppliant, mais sans oser regarder Julien. « Vous savez bien que j'ai de l'orgueil. C'est le malheur de ma position, et même de mon caractère. Je l'avouerai. Madame de Fervaques m'a donc enlevé votre cœur. A-t-elle fait pour vous tous les sacrifices où ce fatal amour m'a entraîné ?» Un morne silence fut toute la réponse de Julien. « De quel droit, pensait-il, me demande-t-elle une indiscrétion indigne d'un honnête homme ?» Mathilde essaya de lire les lettres. Ses yeux remplis de larmes lui en ôtaient la possibilité. Depuis 1 mois, elle était malheureuse, mais cette âme hautaine était loin de s'avouer ses sentiments. Le hasard tout seul avait amené cette explosion. Un instant, la jalousie et l'amour l'avaient emportée sur l'orgueil. Elle était placée sur le divan et fort près de lui. Il voyait ses cheveux et son cou d'albâtre. Un moment, il oublia tout ce qu'il se devait. Il passa le bras autour de sa taille et la serra presque contre sa poitrine. Elle tourna la tête vers lui lentement. Il fut étonné de l'extrême douleur qui était dans ses yeux. C'était à ne pas reconnaître leur physionomie habituelle. Julien sentit ses forces l'abandonner, tant était mortellement pénible l'acte de courage qu'il s'imposait. « Ses yeux n'exprimeront bientôt que le plus froid dédain, se dit Julien, si je me laisse entraîner au bonheur de l'aimer. » Cependant, d'une voix éteinte et avec des paroles qu'elle avait à peine la force d'achever, elle lui répétait en ce moment l'assurance de tous ses regrets pour des démarches que trop d'orgueil avait pu conseiller. « J'ai aussi de l'orgueil, » lui dit Julien d'une voix à peine formée. Et ses traits peignaient le point extrême de l'abattement physique. Mathilde se retourna vivement vers lui. Entendre sa voix était un bonheur, à l'espérance duquel elle avait presque renoncé. En ce moment, elle ne se souvenait de sa hauteur que pour la maudire. Elle eût voulu trouver des démarches insolites, incroyables, pour lui prouver jusqu'à quel point elle l'adorait et se détestait elle-même. « C'est probablement à cause de cet orgueil, » continua Julien, « que vous m'avez distingué un instant. C'est certainement à cause de cette fermeté courageuse et qui convient à un homme que vous m'estimez en ce moment. Je puis avoir de l'amour pour la maréchale. » Mathilde tressaillit. Ses yeux prirent une expression étrange. Elle allait entendre prononcer son arrêt. Ce mouvement n'échappa point à Julien. Il sentit faiblir son courage. « Ah !» se disait-il en écoutant le son des vaines paroles que prononçait sa bouche, comme il eût fait un bruit étranger. « Si je pouvais couvrir de baisers ces joues si pâles, et que tu ne le sentisses pas !»« Je puis avoir de l'amour pour la maréchale, » continuait-il. Et sa voix s'affaiblissait toujours. « Mais certainement, je n'ai de son intérêt pour moi aucune preuve décisive. » Mathilde le regarda. Il soutint ce regard, du moins il espéra que sa physionomie ne l'avait pas trahi. Il se sentait pénétré d'amour jusque dans les replis les plus intimes de son cœur. Jamais il ne l'avait adoré à ce point. Il était presque aussi fou que Mathilde. Si elle se fût trouvée assez de sang-froid et de courage pour manœuvrer, il fut tombé à ses pieds, en abjurant toute vaine comédie. Il eut assez de force pour pouvoir continuer à parler. « Ah, Korasov !» s'écria-t-il intérieurement. « Que n'êtes-vous ici? Quel besoin j'aurais d'un mot pour diriger ma conduite ?» Pendant ce temps, sa voix disait « À défaut de tout autre sentiment, la reconnaissance suffirait pour m'attacher à la maréchale. Elle m'a montré de l'indulgence. Elle m'a consolé quand on me méprisait. Je puis ne pas avoir une foi illimitée en de certaines apparences, extrêmement flatteuses sans doute, mais peut-être aussi bien peu durables. « Ah, grand Dieu !» s'écria Mathilde. « Eh bien, quelle garantie me donnerez-vous ? » reprit Julien avec un accent vif et ferme, et qui semblait abandonner pour un instant les formes prudentes de la diplomatie. « Quelle garantie ? Quel Dieu me répondra que la position que vous semblez disposée à me rendre en cet instant vivra plus de 2 jours ?»« L'excès de mon amour et de mon malheur, si vous ne m'aimez plus !» lui dit-elle en lui prenant les mains et se tournant vers lui. Le mouvement violent qu'elle venait de faire avait un peu déplacé sa pèlerine. Julien apercevait ses épaules charmantes. Ses cheveux un peu dérangés lui rappelèrent un souvenir délicieux. Il allait céder. « Un mot imprudent, » se dit-il, « et je fais recommencer cette longue suite de journées passées dans le désespoir. Madame de Rênal trouvait des raisons pour faire ce que son cœur lui dictait. Cette jeune fille du grand monde ne laisse son cœur s'émouvoir que lorsqu'elle s'est prouvée par bonne raison qu'il doit être ému. » Il vit cette vérité en un clin d'œil, et en un clin d'œil aussi, retrouva du courage. Il retira ses mains que Mathilde pressait dans les siennes, et avec un respect marqué, s'éloigna un peu d'elle. Un courage d'homme ne peut aller plus loin. Il s'occupa ensuite à réunir toutes les lettres de Madame de Fervaques qui étaient éparses sur le divan, et ce fut avec l'apparence d'une politesse extrême et si cruelle en ce moment qu'il ajouta « Mademoiselle de la Mole daignera me permettre de réfléchir sur tout ceci. » Il s'éloigna rapidement et quitta la bibliothèque. Elle l'entendit refermer successivement toutes les portes. « Le monstre n'est point troublé, » se dit-elle. Mais que dis-je, monstre? Il est sage, prudent, bon. C'est moi qui ai plus de tort qu'on n'en pourrait imaginer. » Cette manière de voir dura. Mathilde fut presque heureuse ce jour-là, car elle fut toute à l'amour. On eût dit que jamais cette âme n'avait été agitée par l'orgueil. Et quel orgueil! Elle tressaillit d'horreur quand, le soir au salon, un laquais annonça madame de Fervaques. La voix de cet homme lui parut sinistre. Elle ne put soutenir la vue de la maréchale et s'éloigna rapidement. Julien, peu enorgueilli de sa pénible victoire, avait craint ses propres regards et n'avait pas dîné à l'hôtel de la Mole. Son amour et son bonheur augmentaient rapidement à mesure qu'il s'éloignait du moment de la bataille. Il en était déjà à se blâmer. « Comment ai-je pu lui résister ? » se disait-il. « Si elle allait ne plus m'aimer ! Un moment peut changer cette âme altière, et il faut convenir que je l'ai traitée d'une façon affreuse. » Le soir, il sentit bien qu'il fallait absolument paraître au bouffe dans la loge de madame de Fervaques. Elle l'avait expressément invité. Mathilde ne manquerait pas de savoir sa présence ou son absence impolie. Malgré l'évidence de ce raisonnement, il n'eut pas la force, au commencement de la soirée, de se plonger dans la société. En parlant, il allait perdre la moitié de son bonheur. 10 heures sonnèrent. Il fallut absolument se montrer. Par bonheur, il trouva la loge de la maréchale remplie de femmes et fut relégué près de la porte, et tout à fait caché par les chapeaux. Cette position lui sauva un ridicule. Les accents divins du désespoir de Caroline dans le Matrimonio Segreto le firent fondre en larmes. Madame de Fervaques vit ses larmes. Elle faisait un tel contraste avec la mâle fermeté de sa physionomie habituelle que cette âme de grande dame, dès longtemps saturée de tout ce que la fierté de parvenue a de plus corrodant, en fut touchée. Le peu qui restait chez elle d'un cœur de femme la porta à parler. Elle voulut jouir du son de sa voix en ce moment. « Avez-vous vu les dames de la Mole ? » lui dit-elle. « Elles sont au troisième. » À l'instant, Julien se pencha dans la salle en s'appuyant assez impoliment sur le devant de la loge. Il vit Mathilde. Ses yeux étaient brillants de larmes. « Et cependant, ce n'est pas leur jour d'opéra ? » pensa Julien. « Quel empressement !» Mathilde avait décidé sa mère à venir au bouffe, malgré l'inconvenance du rang de la loge qu'une complaisante de la maison s'était empressée de leur offrir. Elle voulait voir si Julien passerait cette soirée avec la maréchale. Chapitre 61. Lui faire peur. Voilà donc le beau miracle de votre civilisation. De l'amour, vous avez fait une affaire ordinaire. Barnave. Julien courut dans la loge de madame de la Mole. Ses yeux rencontrèrent d'abord les yeux en larmes de Mathilde. Elle pleurait sans nulle retenue. Il n'y avait là que des personnages subalternes, l'ami qui avait prêté la loge et des hommes de sa connaissance. Mathilde posa sa main sur celle de Julien. Elle avait comme oublié toute crainte de sa mère. Presque étouffée par ses larmes, elle ne lui dit que ce seul mot. « Des garanties !»« Au moins que je ne lui parle pas !» se disait Julien, fort ému lui-même, et se cachant tant bien que mal les yeux avec la main, sous prétexte du lustre qui éblouit le troisième rang de loge. « Si je parle, elle ne peut plus douter de l'excès de mon émotion. Le son de ma voix me trahira. Tout peut être perdu encore. » Ses combats étaient bien plus pénibles que le matin. Son âme avait eu le temps de s'émouvoir. Il craignait de voir Mathilde se piquer de vanité. Ivre d'amour et de volupté, il prit sur lui de ne pas lui parler. C'est, selon moi, l'un des plus beaux traits de son caractère. Un être capable d'un tel effort sur lui-même peut aller loin. Si fatta sinant. Mademoiselle de la Mole insista pour ramener Julien à l'hôtel. Heureusement, il pleuvait beaucoup. Mais la marquise le fit placer vis-à-vis d'elle, lui parla constamment et empêcha qu'il ne pût dire un mot à sa fille. On eût pensé que la marquise soignait le bonheur de Julien. Ne craignant plus de tout perdre par l'excès de son émotion, il s'y livrait avec folie. Oserais-je dire qu'en rentrant dans sa chambre, Julien se jeta à genoux et couvrit de baisers les lettres d'amour données par le prince Korasov. « Oh, grand homme, que ne te dois-je pas ? » s'écria-t-il dans sa folie. Peu à peu, quelque sang-froid lui revint. Il se compara à un général qui vient de gagner à demi une grande bataille. « L'avantage est certain, immense, se dit-il. Mais que se passera-t-il demain ? Un instant peut tout perdre. » Il ouvrit d'un mouvement passionné les « Mémoires » dictées à Sainte-Hélène par Napoléon, et pendant deux longues heures se força à les lire. Ses yeux seuls lisaient. N'importe, il s'y forçait. Pendant cette singulière lecture, sa tête et son cœur, montés au niveau de tout ce qu'il y a de plus grand, travaillaient à son insu. « Ce cœur est bien différent de celui de Madame de Rênal, » se disait-il. Mais il n'allait pas plus loin. « Lui faire peur !» s'écria-t-il tout à coup en jetant le livre au loin. « L'ennemi ne m'obéira qu'autant que je lui ferai peur, alors il n'osera me mépriser. » Il se promenait dans sa petite chambre, ivre de joie. À la vérité, ce bonheur était plus d'orgueil que d'amour. « Lui faire peur !» se répétait-il fièrement, et il avait raison d'être fier. Même dans ses moments les plus heureux, Madame de Rênal doutait toujours que mon amour fût égal au sien. « Ici, c'est un démon que je subjugue, donc il faut subjuguer. » Il savait bien que le lendemain, dès 8 heures du matin, Mathilde serait à la bibliothèque. Il n'y parut qu'à 9 heures. Brûlant d'amour, mais sa tête dominait son cœur. Une seule minute peut-être ne se passa pas sans qu'il ne se répétât. La tenir toujours occupée de ce grand doute. M'aime-t-il ? Sa brillante position, les flatteries de tout ce qui lui parle, la porte un peu trop à se rassurer. Il la trouva pâle, calme, assise sur le divan, mais hors d'état apparemment de faire un seul mouvement. Elle lui tendit la main. « Ami, je t'ai offensé, il est vrai. Tu peux être fâché contre moi. » Julien ne s'attendait pas à ce ton si simple. Il fut sur le point de se trahir. « Vous voulez des garanties, mon ami, » ajouta-t-elle après un silence qu'elle avait espéré voir rompre. « Il est juste. Enlevez-moi. « Partons pour Londres. Je serai perdue à jamais, déshonorée. » Elle eut le courage de retirer sa main à Julien pour s'en couvrir les yeux. Tous les sentiments de retenue et de vertu féminine étaient rentrés dans cette âme. « Eh bien, déshonorez-moi, » dit-elle enfin avec un soupir. « C'est une garantie. » « Hier, j'ai été heureux parce que j'ai eu le courage d'être sévère avec moi-même. » pensa Julien. Après un petit moment de silence, il eut assez d'empire sur son cœur pour dire d'un ton glacial « Une fois en route pour Londres, une fois déshonoré pour me servir de vos expressions, qui me répond que vous m'aimerez, que ma présence dans la chaise de poste ne vous semblera point importune? Je ne suis pas un monstre. Vous avoir perdu dans l'opinion ne sera pour moi qu'un malheur de plus. » Ce n'est pas votre position avec le monde qui fait obstacle. C'est par malheur votre caractère. Pouvez-vous répondre à vous-même que vous m'aimerez 8 jours ? Qu'elle m'aime 8 jours, 8 jours seulement, se disait tout bas Julien. Et j'en mourrai de bonheur. Que m'importe l'avenir, que m'importe la vie ? Et ce bonheur divin peut commencer en cet instant si je veux. Il ne dépend que de moi. Mathilde le vit pensif. « Je suis donc tout à fait indigne de vous, » dit-elle en lui prenant la main. Julien l'embrassa, mais à l'instant, la main de fer du devoir saisit son cœur. « Si elle voit combien je l'adore, je la perds. » Et avant de quitter ses bras, il avait repris toute la dignité qui convient à un homme. Ce jour-là et les suivants, il sut cacher l'excès de sa félicité. Il y eut des moments où il se refusait jusqu'au plaisir de la serrer dans ses bras. Dans d'autres instants, le délire du bonheur l'emportait sur tous les conseils de la prudence. C'était auprès d'un berceau de chèvrefeuilles disposé pour cacher l'échelle dans le jardin qu'il avait coutume d'aller se placer pour regarder de loin la persienne de Mathilde et pleurer son inconstance. Un fort grand chêne était tout près et le tronc de cet arbre l'empêchait d'être vu des indiscrets. Passant avec Mathilde dans ce même lieu qui lui rappelait si vivement l'excès de son malheur, le contraste du désespoir passé et de la félicité présente fut trop fort pour son caractère. Des larmes inondèrent ses yeux, et portant à ses lèvres la main de son ami, « Ici, je vivais en pensant à vous. Ici, je regardais cette persienne. J'attendais des heures entières le moment fortuné où je verrais cette main l'ouvrir. » Sa faiblesse fut complète. Il lui peignit avec ses couleurs vraies, qu'on n'invente point, l'excès de son désespoir d'alors. De courtes interjections témoignaient de son bonheur actuel qui avait fait cesser cette peine atroce. « Que fais-je, grand Dieu ?» se dit Julien, revenant à lui tout à coup. « Je me perds !» Dans l'excès de son alarme, il crut déjà voir moins d'amour dans les yeux de Mademoiselle de la Mole. C'était une illusion. Mais la figure de Julien changea rapidement et se couvrit d'une pâleur mortelle. Ses yeux s'éteignirent un instant et l'expression d'une hauteur non exempte de méchanceté succéda bientôt à celle de l'amour le plus vrai et le plus abandonné. « Qu'avez-vous donc, mon ami ?» lui dit Mathilde avec tendresse et inquiétude. « Je mens, » dit Julien avec humeur, « et je mens à vous, je me le reproche, et cependant Dieu sait que je vous estime assez pour ne pas mentir. Vous m'aimez, vous m'êtes dévoué, et je n'ai pas besoin de faire des phrases pour vous plaire. » « Grand Dieu, ce sont des phrases que tout ce que vous me dites de ravissant depuis 10 minutes ?» Et je me les reproche vivement, cher ami. Je les ai composées autrefois pour une femme qui m'aimait et m'ennuyait. C'est le défaut de mon caractère. Je me dénonce moi-même à vous. Pardonnez-moi. » Des larmes amères inondaient les joues de Mathilde. Dès que par quelques nuances qui m'a choquée, j'ai un moment de rêverie forcée, continuait Julien. Mon exécrable mémoire, que je maudis en ce moment, m'offre une ressource et j'en abuse. Je viens donc de tomber à mon insu dans quelque action qui vous aura déplu ? Dit Mathilde avec une naïveté charmante. Un jour, je m'en souviens, passant près de ces chèvrefeuilles, vous avez cueilli une fleur. Monsieur Deluz vous l'a prise et vous la lui avez laissée. J'étais à 2 pas. « Monsieur Deluz, c'est impossible !» reprit Mathilde avec la hauteur qui lui était si naturelle. « Je n'ai point ces façons. »« J'en suis sûre, » répliqua vivement Julien. « Eh bien, il est vrai, mon ami, » dit Mathilde en baissant les yeux tristement. Elle savait positivement que depuis bien des mois, elle n'avait pas permis une telle action à Monsieur Deluz. Julien la regarda avec une tendresse inexprimable. « Non, se dit-il, elle ne m'aime pas moins. » Elle lui reprocha le soir, en riant, son goût pour Madame de Fervaques. « Un bourgeois, aimer une parvenue !» Les cœurs de cette espèce sont peut-être les seuls que mon Julien ne puisse rendre fou. « Elle avait fait de vous un vrai dandy, » disait-elle en jouant avec ses cheveux. Dans le temps qu'il se croyait méprisé de Mathilde, Julien était devenu l'un des hommes les mieux mis de Paris. Mais encore avait-il un avantage sur les gens de cette espèce. Une fois sa toilette arrangée, il n'y songeait plus. Une chose piquait Mathilde. Julien continuait à copier les lettres russes et à les envoyer à la maréchale. Chapitre 62. Le tigre. Hélas, pourquoi ces choses et non pas d'autres ? Beaumarchais. Un voyageur anglais raconte l'intimité où il vivait avec un tigre. Il l'avait élevé et le caressait, mais toujours sur sa table tenait un pistolet armé. Julien ne s'abandonnait à l'excès de son bonheur que dans les instants où Mathilde ne pouvait en lire l'expression dans ses yeux. Il s'acquittait avec exactitude du devoir de lui dire de temps à autre quelques mots durs. Quand la douceur de Mathilde, qui l'observait avec étonnement, et l'excès de son dévouement était sur le point de lui ôter tout empire sur lui-même, il avait le courage de la quitter brusquement. Pour la première fois, Mathilde aima. La vie, qui toujours pour elle s'était traînée à pas de tortue, volait maintenant. Comme il fallait cependant que l'orgueil se fît jour de quelque façon, elle voulait s'exposer avec témérité à tous les dangers que son amour pouvait lui faire courir. C'était Julien qui avait de la prudence, et c'était seulement quand il était question de danger qu'elle ne cédait pas à sa volonté. Mais, soumise et presque humble avec lui, elle n'en montrait que plus de hauteur envers tout ce qui dans la maison l'approchait, parents ou valets. Le soir au salon, au milieu de 60 personnes, elle appelait Julien pour lui parler en particulier et longtemps. Le petit Tanbeau, s'établissant un jour à côté d'eux, elle le pria d'aller lui chercher dans la bibliothèque le volume de Smollett où se trouve la Révolution de 1688. Et comme il hésitait, « Que rien ne vous presse !» ajouta-t-elle avec une expression d'insultante hauteur qui fut un baume pour l'âme de Julien. « Avez-vous remarqué le regard de ce petit monstre ?» lui dit-il. « Son oncle a 10 ou 12 ans de service dans ce salon, sans quoi je le ferais chasser à l'instant. » Sa conduite envers messieurs de Croisenois, de Luz, etc., parfaitement polie pour la forme, n'était guère moins provocante au fond. Mathilde se reprochait vivement toutes les confidences faites jadis à Julien, et d'autant plus qu'elle n'osait lui avouer qu'elle avait exagéré les marques d'intérêt presque tout à fait innocentes dont ces messieurs avaient été l'objet. Malgré les plus belles résolutions, sa fierté de femme l'empêchait tous les jours de dire à Julien « C'est parce que je parlais à vous que je trouvais du plaisir à décrire la faiblesse que j'avais de ne pas retirer ma main, lorsque monsieur de Croisenois, posant la sienne sur une table de marbre, venait à l'effleurer un peu. » Aujourd'hui, à peine un de ces messieurs lui parlait-il quelques instants, qu'elle se trouvait avoir une question à faire à Julien, et c'était un prétexte pour le retenir auprès d'elle. Elle se trouva enceinte, et l'apprit avec joie à Julien. « Maintenant, douterez-vous de moi ? N'est-ce pas une garantie ? Je suis votre épouse à jamais. » Cette annonce frappa Julien d'un étonnement profond. Il fut sur le point d'oublier le principe de sa conduite. Comment être volontairement froid et offensant envers cette pauvre jeune fille qui se perd pour moi ? Avait-elle l'air un peu souffrant ? Même les jours où la sagesse faisait entendre sa voix terrible, il ne se trouvait plus le courage de lui adresser un de ces mots cruels, si indispensables, selon son expérience, à la durée de leur amour. « Je veux écrire à mon père, » lui dit un jour Mathilde. « C'est plus qu'un père pour moi, c'est un ami. Comme tel, je trouverais indigne de vous et de moi de chercher à le tromper, ne fût-ce qu'un instant. » « Grand Dieu, qu'allez-vous faire ? » dit Julien effrayé. « Mon devoir ? » répondit-elle avec des yeux brillants de joie. Elle se trouvait plus magnanime que son amant. « Mais il me chassera avec ignominie. » « C'est son droit. Il faut le respecter. Je vous donnerai le bras et nous sortirons par la porte cochère, en plein midi. » Julien, étonné, la pria de différer d'une semaine. « Je ne puis, » répondit-elle. « L'honneur parle. J'ai vu le devoir. Il faut le suivre, et à l'instant. » « Eh bien, je vous ordonne de différer, » dit enfin Julien. « Votre honneur est à couvert. Je suis votre époux. Notre état à tous les deux va être changé par cette démarche capitale. Je suis aussi dans mon droit. C'est aujourd'hui mardi. Mardi prochain, c'est le jour du duc de Retz. Le soir, quand monsieur de la Mole rentrera, le portier lui remettra la lettre fatale. Il ne pense qu'à vous faire duchesse, j'en suis certain. Jugez de son malheur. Voulez-vous dire, jugez de sa vengeance ? Je puis avoir pitié de mon bienfaiteur, être navré de lui nuire, mais je ne crains et ne craindrai jamais personne. » Mathilde se soumit. Depuis qu'elle avait annoncé son nouvel état à Julien, c'était la première fois qu'il lui parlait avec autorité. Jamais il ne l'avait tant aimé. C'était avec bonheur que la partie tendre de son âme saisissait le prétexte de l'état où se trouvait Mathilde pour se dispenser de lui adresser des mots cruels. L'aveu à monsieur de la Mole l'agita profondément. Allait-il être séparé de Mathilde ? Et avec quelque douleur qu'elle le vit partir, un mois après son départ, songerait-elle à lui ? Il avait une horreur presque égale des justes reproches que le marquis pouvait lui adresser. Le soir, il avoua à Mathilde ce second sujet de chagrin, et ensuite, égaré par son amour, il fit l'aveu du premier. Elle changea de couleur. « Réellement, lui dit-elle, 6 mois passés loin de moi seraient un malheur pour vous ?»« Immense, le seul au monde que je vois avec terreur. » Mathilde fut bien heureuse. Julien avait suivi son rôle avec tant d'application qu'il était parvenu à lui faire penser qu'elle était celle des deux qui avait le plus d'amour. Le mardi fatal arriva. À minuit, en rentrant, le marquis trouva une lettre avec l'adresse qu'il fallait pour qu'il l'ouvrît lui-même et seulement quand il serait sans témoin. « Mon père, tous les liens sociaux sont rompus entre nous, il ne reste plus que ceux de la nature. Après mon mari, vous êtes et serez toujours l'être qui me sera le plus cher. Mes yeux se remplissent de larmes. Je songe à la peine que je vous cause. Mais pour que ma honte ne soit pas publique, pour vous laisser le temps de délibérer et d'agir, je n'ai pu différer plus longtemps l'aveu que je vous dois. Si votre amitié, que je sais être extrême pour moi, veut m'accorder une petite pension, j'irai m'établir où vous voudrez. En Suisse, par exemple, avec mon mari. Son nom est tellement obscur que personne ne reconnaîtra votre fille dans Madame Sorel, belle-fille d'un charpentier de Verrières. Voilà ce nom qui m'a fait tant de peine à écrire. Je redoute pour Julien votre colère, si juste en apparence. Je ne serai pas duchesse, mon père, mais je le savais en l'aimant, car c'est moi qui l'ai aimé la première. C'est moi qui l'ai séduit. Je tiens de vous une âme trop élevée pour arrêter mon attention à ce qui est ou me semble vulgaire. C'est en vain que dans le dessein de vous plaire, j'ai songé à monsieur de Croisenois. Pourquoi aviez-vous placé le vrai mérite sous mes yeux ? Vous me l'avez dit vous-même à mon retour d'hier. Ce jeune Sorel est le seul être qui m'amuse. Le pauvre garçon est aussi affligé que moi, s'il est possible, de la peine que vous fait cette lettre. Je ne puis empêcher que vous ne soyez irrité comme père, mais aimez-moi toujours comme ami. » Julien me respectait. S'il me parlait quelquefois, c'était uniquement à cause de sa profonde reconnaissance pour vous, car la hauteur naturelle de son caractère le porte à ne jamais répondre qu'officiellement à tout ce qui est tellement au-dessus de lui. Il a un sentiment vif et inné de la différence des positions sociales. C'est moi, je l'avoue, en rougissant, à mon meilleur ami, et jamais un tel aveu ne sera fait à un autre. C'est moi qui, un jour au jardin, lui ai serré le bras. Après 24 heures, pourquoi seriez-vous irrité contre lui? Ma faute est irréparable. Si vous l'exigez, c'est par moi que passeront les assurances de son profond respect et de son désespoir de vous déplaire. Vous ne le verrez point, mais j'irai le rejoindre où il voudra. C'est son droit, c'est mon devoir, il est le père de mon enfant. Si votre bonté veut bien nous accorder 6 000 francs pour vivre, je les recevrai avec reconnaissance. Sinon, Julien compte s'établir à Besançon, où il commencera le métier de maître de latin et de littérature. De quelque bas degré qu'il parte, j'ai la certitude qu'il s'élèvera. Avec lui, je ne crains pas l'obscurité. S'il y a révolution, je suis sûr pour lui d'un premier rôle. Pourriez-vous en dire autant d'aucun de ceux qui ont demandé ma main? Ils ont de belles terres. Je ne puis trouver dans cette seule circonstance une raison pour admirer. Mais Julien atteindrait une haute position même sous le régime actuel, s'il avait 1 000 000 et la protection de mon père. Mathilde, qui savait que le marquis était un homme tout de premier mouvement, avait écrit 8 pages. « Que faire ? » se disait Julien, pendant que M. de la Mole lisait cette lettre. « Où est ? 1. Mon devoir. 2. Mon intérêt. Ce que je lui dois est immense. J'eusse été sans lui un coquin subalterne, et pas assez coquin pour n'être pas haï et persécuté par les autres. Il m'a fait un homme du monde. Mes coquineries nécessaires seront, premièrement, plus rares, deuxièmement, moins ignobles. Cela est plus que s'il m'eût donné 1 000 000. Je lui dois cette croix et l'apparence de service diplomatique qui me tire du père. S'il tenait la plume pour prescrire ma conduite, qu'est-ce qu'il écrirait ? Julien fut brusquement interrompu par le vieux valet de chambre de M. de la Mole. « Le marquis vous demande, à l'instant, vêtu ou non vêtu ?» Le valet ajouta à voix basse, en marchant à côté de Julien, « Monsieur le marquis est hors de lui, prenez garde à vous !»